Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilisent à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise.
Ne pas tout attendre de l'État, cette phrase prononcée par Lionel Jospin, alors que Michelin annonçait un plan de licenciement, date d'il y a 15 ans. Et pourtant, elle est d'une troublante actualité. Aujourd'hui, c'est à Belfort que cela se passe. Alstom a annoncé l'arrêt de la production de trains dans son usine historique. Et c'est une semaine décisive qui s'ouvre aujourd'hui. Car accusé d'avoir su, mais de ne pas avoir fait, le gouvernement s'est donné une dizaine de jours pour trouver une solution. Tout sera fait pour que le site de Belfort puisse être pérennisé, a promis François Hollande. Un exécutif sous pression de l'opinion. 80% des Français sont favorables à ce que le gouvernement oblige ou aide Alstom à changer de position. Sous pression des syndicats, une grève est prévue le 27 septembre. Et puis, sous pression politique, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, réclame, mais il n'est pas seul, une nationalisation pour sauvegarder les 400 emplois qui sont concernés à Belfort. Alstom, l'État, doit-il sauver le site de Belfort? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dans ce studio. Arnaud Aimé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste des transports et associé chez SIA Partners, qui est un cabinet de consulting. Philippe Léger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Picardie, membre de l'Association française d'économie politique et puis membre du collectif des économistes atterrés. Philippe Léger, l'État peut-il, avant qu'on se demande s'il doit le faire, obliger Alstom à ne pas fermer le site de Belfort?
Alors oui, il a des moyens d'action. Bon, ici, dans le cas présent, on parle de production de motrices pour le fret. Donc déjà, la première chose que peut faire l'État, c'est de ne pas mettre des bâtons dans les roues de ce secteur, comme il a pu le faire et comme de nombreux gouvernements l'ont fait. C'est un secteur qui est en déclin depuis plusieurs décennies.
Concrètement, quand vous dites que l'État a mis des bâtons dans les roues, vous faites référence à quelle décision ou à quelle non-décision?
Dans la période récente, en termes de non-décision, c'est l'annulation de l'écotaxe. En termes de décision, c'est l'autorisation de poids lourd de 44 tonnes. Donc ce que je veux dire, c'est que on a en France un système qui avantage le transport routier pour le fret par rapport au ferroviaire. Et aujourd'hui, en dépit de tous les discours écologistes, notamment lors de la COP21, etc., cette situation perdure.
Donc ce que vous soulignez là, c'est une forme d'hypocrisie entre un exécutif qui aujourd'hui nous dit on va tout faire pour sauver Alstom, mais qui, selon vous, n'a pas tout fait pour préserver le rail en France.
Oui, tout à fait. Et pour dire les choses, je pense que le gouvernement va réussir in extremis à sauver le site. Ce serait une bonne nouvelle, mais je pense qu'il y a un problème de fond plus structurel qui, lui, malheureusement, ne sera pas réglé.
Arnaud Aimé, votre sentiment sur les outils, les moyens qu'a l'État aujourd'hui pour essayer de faire bouger la situation? Vous pensez aussi qu'il a des outils, il peut sauver Alstom s'il le souhaite?
La solution, effectivement, au problème de l'industrie ferroviaire en France, c'est le transport ferroviaire en France. Et il faut que l'État, effectivement, ait une politique industrielle qui soit cohérente et qui, sinon, favorise le transport ferroviaire, au moins arrête de le défavoriser. On citait l'écotaxe à l'instant. L'écotaxe, le principe, c'était quoi? C'est que les camions qui empruntent les routes nationales paye pour l'utilisation de ces routes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors que les trains de fret ou les TGV, puisque les motrices TGV sont aussi faites à Belfort, eh bien paye pour l'utilisation de la voie ferrée. Et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. On citait l'écotaxe, on peut citer aussi dans les mesures que pourraient prendre les pouvoirs publics pour favoriser le transport ferroviaire, l'allègement de toute la dette qui a été héritée depuis le 19e siècle du réseau ferroviaire. En Allemagne, dans les années 90, le pouvoir fédéral a effacé la dette de la Deutsche Bahn pour repartir sur des bases nouvelles. C'est ce qu'il faudrait probablement faire également en France.
Alors justement, sur cette comparaison internationale, Philippe Léger, est-ce qu'effectivement cette situation elle s'est déjà retrouvée ailleurs et d'autres décisions ont été prises? On vient de parler de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres exemples?
Alors, vous voulez dire de pays dans lesquels il y a des difficultés Il y a un phénomène général de désindustrialisation qu'on retrouve dans de nombreux pays d'Europe. Et aujourd'hui, je dirais que globalement, les réponses politiques sont quand même assez faibles par rapport à cela. Et un point, il me semble important, c'est que les marges de manœuvre sont assez réduites parce qu'on est dans un contexte d'austérité budgétaire. Ce que je veux dire, c'est que si les commandes publiques adressées à ces entreprises sont insuffisantes, c'est en grande partie à cause de la politique budgétaire qui est menée, alors en ce moment par le gouvernement Hollande et également par le gouvernement précédent, gouvernement Sarkozy, surtout sur la fin de son quinquennat. Je donne juste quelques chiffres. L'investissement public des administrations publiques. Si je prends les chiffres de l'INSEE, il a chuté de 5,8% en 2014, il a chuté de 3,9% en 2015. Bon, l'austérité budgétaire, concrètement, c'est ça. Et ça veut dire de l'investissement public en moins et donc moins de commandes pour ces entreprises.
Vous faites le même constat, Arnaud Aimé, sur là aussi cette sorte de contradiction entre ce que dit l'État et ce que fait l'État, ce qu'impose l'État aux collectivités locales ?
J'aurais des remarques moins généralistes sur l'investissement public, mais pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, si on cite le cas de la Chine, eh bien la Chine s'est dit on veut avoir une industrie ferroviaire leader, déjà puissante en domestique et puis leader dans le monde, qui soit capable d'exporter. Eh bien qu'a fait la Chine ? La Chine s'est dit pour que les industriels chinois du ferroviaire soient puissants, il faut qu'ils aient un marché domestique qui soit fort. Et c'est la force du marché domestique qui permet à des industriels de devenir des champions à l'international et d'exporter. S'il n'y avait pas eu de TGV en France à partir de 1980, eh ben il n'y aurait certainement pas eu le succès d'Alstom à l'international. Donc c'est ça qu'il faudrait favoriser.
Est-ce que les choix politiques en la matière sont suffisants. Je pense par exemple à ce méga contrat du RER là, qui doit être octroyé dans quelques mois, donc qui va concerner 250 trains, 3 milliards d'euros. Mais là, il y a un appel d'offres qui est ouvert. L'État ne peut pas choisir. En fait, il a des contraintes légales qu'il doit suivre, Philippe Léger.
Alors, l'appel d'offres que vous citez, qui est donc en cours, est probablement la motivation de la façon très particulière dont l'entreprise a communiqué de façon assez brutale. C'est une façon de faire pression sur les pouvoirs publics pour Alstom, pour essayer d'obtenir ce contrat.
Mais le constructeur espagnol qui est en concurrence s'inquiète de cette possible pression. La CAF.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, bon, il y a cette question-là... dans ce cas précis, mais de façon plus structurelle, il faut quand même voir que, j'en reviens à la question de l'austérité budgétaire, que les dotations aux collectivités, eh bien, elles ont baissé de 3,7 milliards en 2015, elles ont baissé de 3,7 milliards à nouveau en 2016, alors même si on freine un peu en 2017 sur l'austérité budgétaire parce qu'il y a des élections, c'est la situation
fondamentale. Il y a une vraie tendance et elle n'est pas en train de se retourner.
Voilà, et ça explique que l'État, les régions et la SNCF, qui avaient commandé un millier de rames en 2009, finalement n'en ont payé que 270. Donc cette révision à la baisse des commandes est problématique pour ces entreprises.
Arnaud Aimé veut vous répondre, je crois.
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les intentions supposées des dirigeants d'Alstom. Belfort, c'est un des berceaux d'Alstom. Les dirigeants, ils s'y rendent souvent. Et à mon avis, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont pris la décision de fermer le site. Et pour moi, c'était une décision qui leur paraissait inéluctable. Ce site déjà baissait en charge depuis un certain nombre d'années. Et s'ils ont pris la décision, c'est qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il n'y a plus de carnet de commandes pour faire vivre l'usine au-delà de 2018, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Donc, je pense pas
les effectifs ont considérablement baissé. Aujourd'hui, on est à 400 salariés, effectivement.
Voilà, 500 et 480 qui devraient être supprimés, puisqu'il restera des effectifs pour la maintenance. Mais je ne pense pas qu'ils prennent cette décision de gaieté de cœur.
Mais en même temps, on peut se demander aussi si Alstom ne peut pas aussi faire de cette usine un symbole, avoir une action forte, une décision forte, continuer, le pérenniser, même s'il n'est pas hyper rentable, Philippe Léger. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont complètement ahurissantes dans la sphère économique aujourd'hui, ou ça peut rentrer en ligne de compte ?
Non, mais... Par ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que, effectivement, je n'ai jamais dit que les dirigeants de cette entreprise faisaient ça pour le plaisir, mais ça ne les empêche pas d'instrumentaliser ce cas pour essayer d'obtenir des avantages dans un certain nombre de marchés publics.
Alors, avant de vous poser la question, Arnaud Aimé, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, puisqu'on parle des marchés publics, comme vous disiez, effectivement, il y a des contraintes légales et l'État peut pas truquer les marchés publics. Et quand bien même il le pourrait, c'est pas forcément dans l'intérêt des entreprises ferroviaires. Forcer déjà des entreprises ferroviaires ferroviaires ou des transporteurs publics, tels que la RATP par exemple, à passer commande de rames dont elles n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'elles n'ont pas, c'est pas une bonne chose pour ces entreprises, et du coup c'est pas une bonne chose ni pour les voyageurs ni pour les chargeurs. Si on oblige les transporteurs à faire des choix contraires au bon sens économique, à ce moment-là c'est le prix du billet de train qui va augmenter, c'est le prix de la tonne transportée en fret qui va augmenter, et ça ce serait pas non plus favoriser le ferroviaire en France.
Là-dessus, Philippe Léger, qu'est-ce que vous répondez à Arnaud Aimé?
Là-dessus, deux choses. Bon, d'abord, il y a une certaine façon de rédiger des appels d'offres, et donc ça a une influence sur le résultat. Si vous faites un appel d'offres extrêmement détaillé dans lequel le cahier des charges comporte un nombre de clauses très importantes et la seule variable c'est le prix, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la pression sur les producteurs sur la question du prix, alors qu'on peut faire des appels d'offres, disons, plus vague, plus...
Vous voulez dire façonner l'appel d'offres pour favoriser, par exemple, une candidature de Alstom plutôt que de l'espagnol.
Voilà, c'est ce qui se pratique dans certains pays, etc. Bon, ensuite, sur la question de savoir si c'est désirable, ce que je pense, c'est que ce qui est désirable, c'est que le débat public et le débat démocratique, il ait lieu sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas simplement la question du site en question. Bon, en l'occurrence, ce serait une mauvaise nouvelle, la fermeture, parce que c'est des suppressions de postes, même si il y a des reclassements qui sont annoncés. Mais en plus, même si des concurrents d'Alstom, comme Bombardier ou le concurrent espagnol fabriquent du matériel avec des salariés français, donc créent des emplois en France, il reste la question de savoir si il faut ou pas accepter la fermeture de tel ou tel site. Donc il y a une question de répartition géographique, d'aménagement du territoire, de répartition des emplois, et puis surtout une question stratégique, et donc là de politique industrielle, et là je vous rejoins tout à fait, qui est de savoir si on doit accepter la fermeture d'un des derniers sites de ce type. Or, cette question, qui est pourtant de nature démocratique, elle ne peut pas être posée dans les règles actuelles de l'Union européenne, parce que depuis 1988...
C'est ce que dit par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'il faudrait revoir les règles en matière de marché public. Il est très très spécifique, mais ça pose une question intéressante.
Cela dit, la situation, elle n'est pas du tout désespérée. Effectivement, il y a des procédures d'appel d'offres publics, européens ou même français. C'est pas l'Europe qui a inventé la procédure d'appel d'offres publics. Il y a quand même des moyens raisonnables pour favoriser l'émergence de champions industriels français tels que Alstom, par exemple. On peut citer l'accord signé la semaine dernière entre la SNCF et Alstom pour le TGV du futur. C'est quoi cet accord ? Cet accord, c'est un contrat de partenariat par lequel Alstom et SNCF se mettent d'accord pour financer ensemble la R&D. Et c'est un moyen pour Alstom d'être ensuite favori, naturellement favori, pour le futur appel d'offres.
Alstom, l'État, doit-il, peut-il sauver le site de Belfort ? C'est donc le débat de ce soir avec nos deux invités, Arnaud Aimé, Philippe Léger. Je voudrais vous poser la question de la nationalisation, puisqu'on l'a entendu, c'est une des propositions, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon. Mais du côté du Front National, Marion Maréchal Le Pen dit qu'elle envisagerait cette solution. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Léger ? Est-ce que c'est une piste intéressante, nationaliser Alstom ?
Alors, la dernière fois que cette question a été... dans le débat public, c'était concernant un autre secteur, concernant Florange. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, s'était engagé au maintien de l'activité et il avait proposé la nationalisation temporaire. Alors sur le principe, moi je suis tout à fait d'accord. Face à des situations d'urgence, l'État doit pouvoir nationaliser, éventuellement temporairement, pour préserver l'activité et l'emploi. Mais ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les promesses de Montebourg n'ont pas été tenues. Et je pense qu'il n'aurait pas dû faire ses promesses, étant donné la nature du gouvernement dans lequel il était. Était évident qu'on n'allait pas le suivre.
Mais bonne idée ou mauvaise idée ?
Je pense que c'est une bonne idée. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Aimé ?
Moi, je ne fais pas de politique, donc je n'ai pas d'idée là-dessus. J'ai mon idée en tant que contribuable.
Ou économiquement,
peut-être ? Je me demande comment ça va être
financé. Voilà.
Je me demande comment ça va être financé. Et si, ça constitue une priorité pour l'État que de racheter ses parts à Bouygues, par exemple, dans Alstom. Quand on regarde, il ne faudrait pas que l'État, devenant actionnaire majoritaire d'Alstom, pousse ce fleuron industriel français à prendre des décisions anti-économiques. Quand on voit que l'État...
Donc là, on en vient à la fameuse question, l'État doit-il sauver le site de Belfort.
L'État doit instaurer un climat favorable au transport ferroviaire en France. Par contre, l'État n'est pas forcément le mieux placé pour diriger une entreprise. Et quand aujourd'hui, l'État oblige une entreprise comme la RATP ou la SNCF, dont elle est actionnaire, à prendre des décisions sur les dessertes qu'il faut assurer par le train, sur les choix de matériel roulant, sur la manière de mener une négociation sociale, on se dit que c'est pas la meilleure solution.
Donc l'État doit être stratège, comme l'a dit par exemple Manuel Valls. Alors justement, Manuel Valls a dit, d'une manière générale, le rôle de l'État, c'est d'organiser des filières, de faire émerger des solutions collectives, mais la prise de décision, c'est la prérogative des entreprises. Ça pose la question, quelle répartition des rôles entre l'entreprise et l'État, selon vous, Arnaud Aimé, comment vous la définiriez, cette répartition des tâches entre l'État et l'entreprise ?
L'entreprise doit prendre des décisions de manière à maintenir dans la durée et développer dans la durée l'activité pour elle, donc développer son chiffre d'affaires, assurer sa rentabilité, assurer le paiement des salaires accessoirement. Et il ne s'agit pas, par contre, de forcer les entreprises, pour l'État, à prendre des décisions anti-industrielles. Et l'entreprise est mieux placée que l'État pour définir son schéma industriel, c'est-à-dire quels matériels sont produits à quel endroit. Ce serait anti-économique de forcer Alstom à produire en France pour des contrats au grand international. Les États-Unis, l'Inde obligent Alstom, quand ils gagnent un appel d'offres, à produire localement. Si Alstom s'interdit ça, à ce moment-là, Alstom perd le marché et ça fait pas plus d'emplois en France. Au contraire, ça le réduit parce qu'il y aura même plus les ingénieurs, les bureaux d'études à concevoir en France pour l'international.
Philippe Léger, est-ce que vous partagez cette analyse sur la répartition des rôles ?
Alors, sur ce qui a été dit au début, sur le fait que l'État doit créer un climat favorable au secteur ferroviaire en France, je suis entièrement d'accord. On l'a expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est un secteur qui joue d'abord un rôle de service public important pour une grande partie de la population, et d'autre part qui doit être amené à jouer un rôle essentiel dans la transition écologique. Donc pour ces raisons, je suis entièrement d'accord. Ensuite, sur ce qu'a dit Valls, la prise de décision, c'est la prérogative de l'entreprise. Nous ne sommes pas dans une économie administrée, a-t-il ajouté. Le problème, c'est que le Premier ministre dit ça, et trois jours avant, Jens Weidmann, c'était dimanche, Jens Weidmann, donc c'est le président de la Bundesbank, parlant des banques centrales et aussi de la BCE, dit « Nous ne sommes pas des planificateurs et ce n'est pas nous qui pilotons la politique industrielle ». En fait, on a l'impression qu'il n'y en a pas de pilote de la politique industrielle. Et de fait, il n'y en a pas. Il n'y en a ni au niveau national, ni au niveau européen. Au niveau européen, ce qui tient lieu de politique pour les entreprises, c'est la politique de concurrence qui a la prééminence totale.
Donc finalement, vous êtes d'accord, hein, l'entreprise doit décider, l'État doit impulser. Le problème, c'est que pour l'instant, selon vous, l'État n'impulse pas assez, il n'a pas de stratégie industrielle qui soit claire.
Oui, je pense que l'État doit beaucoup plus impulser et avoir une véritable politique industrielle.
Alors, je voudrais quand même qu'on revienne, il nous reste très peu de temps, mais je voulais vous faire réagir à ça, sur la notion quand même de la responsabilité de l'entreprise. Ce week-end aussi, il y a eu un discours chez Michelin avec Manuel Valls, et le PDG de Michelin rappelait qu'il avait fait le pari de la France, donc c'était le patron du géant du pneumatique, lors de l'inauguration d'un nouveau centre d'innovation technologique de l'ADOU, c'est près de Clermont-Ferrand. Est-ce que ça, c'est pas une piste intéressante aussi que de responsabiliser, ou que les entreprises plutôt prennent leurs responsabilités, Arnaud Aimé ?
Si, effectivement, mais il me semble que les industriels tels qu'Alstom le font effectivement et maintiennent une grosse quantité d'emplois en France, et notamment les emplois, comme je le disais tout à l'heure, d'ingénieurs, de bureaux d'études qui sont localisés en France, alors même qu'il s'agit de fabriquer du matériel qui sera vendu aux États-Unis
et en Inde.
Donc
pour vous, Alstom prend ses responsabilités dans ce cas-là ?
Oui, par contre, Alstom ne peut pas forcer ses clients à ce que la production soit en France plutôt qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, Amtrak a commandé un certain nombre de rames. Ces rames sont financées par un prêt de l'État fédéral américain qui a exigé, qu'on le veuille ou non, que la production soit aux États-Unis.
En quelques secondes, Philippe Léger, pour vous donner la parole aussi sur ce thème, Michelin, c'est un bon exemple.
Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance ? Moi, j'ai pas spécialement confiance. Et on a vu que toute la politique du gouvernement actuel consistait à faire une confiance aveugle aux entreprises avec quand même un pacte de responsabilité qui coûte 41 milliards d'euros. Donc, il faut se poser des questions et instaurer des mesures de contrôle également.
Merci beaucoup. Merci donc à Arnaud Aimé, économiste, spécialiste des transports, associé chez CIA Partners. Merci à Philippe Léger, maître de conférence en économie à l'Université de Picardie, membre du collectif des économistes atterrés. Merci également à Valentin Vanneur, à Florence Ponce. On se retrouve mercredi pour un nouveau débat.